Croatie.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du lundi 12 décembre 2022. Avec vous, Eric Manilakiza. Voici d'abord le sommaire. Le président américain Joe Biden accueille cette semaine un sommet avec l'Afrique face à la percée chinoise et russe. En Guinée, Moussa Dadis Camara nie ses responsabilités au procès du massacre de 2009. Un suspect de l'attentat de Lockerbie sera présenté ce lundi à un juge américain. Semaine décisive pour le président sud-africain empêtré dans un scandale impliquant de mystérieuses sommes en liquide. Coupe du monde Qatar 2022, la première demi-finale c'est demain mardi entre Argentine et Croatie et mercredi le Maroc, première nation africaine à atteindre le dernier carré de la Coupe du monde et invité surprise de ces demi-finales affronte la France, champion en titre. Et oui, on commence avec ce journal de la Coupe du Monde. Au bout d'un tournoi riche en surprises, la Coupe du Monde s'achemine vers son dénouement. Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Nous sommes dans la dernière semaine de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Pas de match aujourd'hui. Les demi-finales débutent demain mardi avec un alléchant Croatie-Argentine à 19h temps universel. Ce match rappelle des souvenirs du Mondial 2018 où les Croates avaient douché les Argentins en phase de poule, n'est-ce pas, Michel Joseph?
Argentine-Croatie, si l'affiche est inédite en demi-finale de Coupe du Monde, elle ne l'est pas dans un mondial, puisque les deux équipes se sont croisées en Russie en 2018, laissant des souvenirs bons ou mauvais, selon le point de vue. Le 21 juin 2018, les Croates ont écrasé les Argentins 3-0 en phase de poule. Une humiliation ou une catastrophe pour la presse argentine. 4 ans plus tard, cette demi-finale sonne comme une ère de revanche pour les Argentins, jusqu'ici portés par le génie de leur Messi, Lionel, encore décisif en quart de finale face aux Pays-Bas. En face, si la Croatie n'a pas dans son effectif un Lionel Messi, elle dispose en revanche d'un peu de tout ce qui manque à l'Argentine. Un collectif cohérent, un milieu de terrain qui sait construire des actions, une défense qui a des repères collectifs et un gardien décisif. C'est justement ce collectif qui a tenu face au Brésil et bouté hors de la compétition Neymar et sa favorite Seleção. Des groupes qui étaient de la partie en 2018 en Russie, côté croate, sont toujours présents. Luka Modric, Dejan Lovren, Ivan Perisic et le sélectionneur Zlatko Dalic. Côté argentin, Lionel Messi et Nicolas Otamendi sont présents au Qatar et tous deux ont sûrement en tête les images de la claque reçue des Croates en 2018.
La seconde demi-finale est prévue pour mercredi à 19h entre le Maroc et la France. C'est connu, les Lions de l'Atlas ont brisé le plafond de vers samedi en qualifiant l'Afrique et le monde arabe pour leur première demi-finale de Coupe du Monde. La France de Kylian Mbappé rêve de devenir la première nation à conserver son titre depuis le Brésil de Pelé en 1962. Pour cela, il faut d'abord passer l'obstacle marocain qui est soutenu par tout un continent, l'Afrique, et toute une culture, celle du monde arabe, après être devenue la première nation africaine à atteindre le dernier carré. Même si le Maroc vivra sa première expérience de demi-finale de Coupe du Monde face à des Français habitués de l'exercice, le défenseur des Bleus, Raphaël Varane, soutient qu'il ne faut pas sous-estimer les Lions de l'Atlas.
Si le Maroc est à ce niveau-là de la compétition, c'est pas un hasard.
C'est une équipe très solide, très difficile à bouger. Défensivement, on voit une grosse solidarité. C'est une force aussi collective qui se dégage. Il y a des performances qui leur donnent beaucoup de confiance. C'est une équipe qui est solidaire, qui est soudée. Ils ont des armes aussi offensivement, que ce soit sur des contre-attaques, sur des coups de pied arrêtés ou sur des actions individuelles. Il y a des joueurs de qualité.
Raphaël Varane, défenseur de Bleu. L'une des forces des Lions de l'Atlas, c'est leur force mentale et le soutien sans faille de leurs supporters inconditionnels, comme Mohamed Harmak. Ce directeur d'exploitation dans un restaurant asiatique basé à Casablanca est un fou de foot depuis 30 ans. Notre correspondant à Casablanca, Emmanuel Ngapela, l'a suivi dans son univers. Reportage.
Bonjour, je m'appelle Mohamed Hermel, je suis un fou de foot. Alors, dans la vie, je suis un directeur d'exploitation au sein d'une chaîne de restauration asiatique. Ma passion pour le foot a démarré il y a à peu près 30 ans, quand j'avais 7 ans. C'était avec mon père. Donc c'était un amour de jouer et de s'amuser et de s'éclater avec mon père. Mon entourage pense que je joue bien, j'aime bien le foot, que je peux donner le meilleur pour le foot. Alors pour supporter mon équipe, je suis prêt à me déplacer, je suis prêt à crier, je suis prêt de chanter et d'être toujours avec eux pour le bien et le meilleur. Mon équipe préférée, c'est le Wydad Athletic Club de Casablanca. C'est une équipe qui est un symbole de résistance et qui est une équipe de tous les Marocains. Je pense personnellement que le foot, il est fait pour réunir les gens, pour avoir toujours dans toute la vie l'esprit sportif, l'esprit d'équipe et garder toujours le foot un moyen d'avoir plus de relationnel, avoir plus d'humanité et pourquoi pas plus de motivation et de y aller vers l'avant, vers le meilleur.
C'est ici que nous refermons cette rubrique spéciale consacrée à la Coupe du Monde.
Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement africains se retrouvent à partir de demain mardi ici à Washington. Ils seront l'hôte du président américain Joe Biden qui a relancé le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Le point avec Abdourahmane Dia.
Au menu du deuxième sommet, dont le premier s'était tenu en 2014 lorsque Barack Obama était président, l'investissement, la démocratie, les droits de l'homme, la sécurité. Il s'agit pour l'administration Biden de surtout démontrer que les États-Unis s'intéressent encore à l'Afrique, alors que des puissances comme la Chine, la Russie et même la Turquie gagnent du terrain sur le continent. Selon la Maison-Blanche, le président américain va appeler lors du sommet à ce que l'Union africaine soit formellement représentée au G20. Lors d'une tournée en Afrique cet été, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait appelé à créer un véritable partenariat avec l'Afrique alors que Washington a lancé l'été dernier sa nouvelle stratégie sur l'Afrique dont l'objectif est de contrer la présence chinoise et russe. Un des temps forts de ce sommet de 3 jours sera le Forum des affaires États-Unis-Afrique qui se tient mercredi. Plusieurs accords commerciaux impliquant des entreprises américaines devraient être annoncés. Le président américain prendra aussi part à une réunion prévue jeudi sur la sécurité alimentaire en Afrique.
En Guinée, l'ex-chef de la junte Moussa Dadis Camara a livré ce lundi sa version des faits dans la répression sanglante de 2009. Le capitaine Camara a clamé son innocence et concernant le massacre de plus de 150 manifestants et le viol sur plus de 190 femmes, selon une enquête des Nations Unies. Dadis Camara a parlé de complot contre sa personne. Zakaria Camara.
Pour sa deuxième comparution, pour livrer sa version des faits, après une première qui n'aura duré que le temps de demander au tribunal un report pour raison de santé, le capitaine Moussa Dadis Camara s'en est d'abord pris à son ancien aide de camp dont il qualifie les témoignages de mensonges. « C'est Dieu qui m'a donné le pouvoir, un simple sous-officier sans troupes ne pouvait le faire », a dit Dadis Camara, visiblement à l'aise sur une chaise face au président du tribunal. Sur les événements du 28 septembre 2009, l'ex-chef de la junte qui a pris le pouvoir en 2008 à la suite du décès du général Ansana Conté a révélé avoir été victime d'un complot savamment orchestré selon ses mots par l'ex-président Alpha Condé avec une complicité de son aide de camp Aboubakar Toumba Diakité et l'ex-président de la transition, son successeur, le général Sékouba Konaté. Moussa Dadis Camara est le 9e des 11 prévenus à comparaître à la barre dans le procès du massacre du 28 septembre. Zakaria Camara, pour VOA Afrique, Conakry.
Un militant des droits humains et coordinateur de l'ONG Somo Sociedad Civile, Joachim Elo Ayeto, a été arrêté samedi en Guinée équatoriale pour avoir organisé une conférence sur les droits de l'homme et la corruption sans autorisation officielle, ont assuré lundi son avocat et son ONG. Maître Henrel Obama Obiang Seng, qui assure sa défense, dit que le motif de l'arrestation et de la détention ne tient pas car il a organisé la conférence dans un établissement privé et pas dans un lieu public dans lequel il est nécessaire de solliciter une autorisation officielle. En Afrique du Sud, la semaine s'annonce décisive pour le président Cyril Ramaphosa, déstabilisé par un scandale impliquant de mystérieuses sommes en liquide dans l'une de ses propriétés. Son avenir politique est suspendu au possible lancement d'une procédure de destitution demain mardi avant un vote du parti au pouvoir en vue d'un second mandat. Nanit Talani.
Le Parlement doit décider mardi de lancer ou non un vote de destitution. Les caciques de l'ANC ont annoncé un soutien au chef de l'État, appelant les parlementaires à voter contre une procédure de destitution. L'ANC étant largement majoritaire au Parlement, la procédure a peu de chances d'aboutir. La décision du Parlement va intervenir 3 jours avant la conférence de l'ANC qui doit élire son prochain leader et potentiel futur chef de l'État si le parti remporte les élections générales de 2024. Les députés du parti ont désigné M. Ramaphosa candidat avec une large avance pour la présidence du parti. Par ailleurs, le chef de l'État a contre-attaqué avec un recours devant la plus haute juridiction du pays pour faire invalider les conclusions du rapport parlementaire, soutenant qu'il a pu commettre des actes violant la loi dans l'affaire du cambriolage, ouvrant la voie à une procédure de destitution. La Cour constitutionnelle doit se prononcer en urgence.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un Libyen soupçonné d'avoir assemblé et programmé la bombe de l'attentat de Lockerbie en Écosse, tuant 270 personnes en décembre 1988, doit être présenté ce lundi à un juge à Washington, selon le ministère américain de la Justice. Michel Joseph.
Abu Aguilar Mohamed Massoud, dont l'arrestation a été annoncée dimanche, comparé aujourd'hui devant un juge fédéral à Washington DC, a annoncé le ministère américain de la Justice. Ancien membre des services de renseignement libyens, il a été inculpé en 2020 par la justice américaine. Le 21 décembre 1988, un Boeing de la Pan Am reliant Londres à New York avait explosé au-dessus du village écossais de Lockerbie, tuant les 259 passagers et membres d'équipage et 11 personnes au sol. C'est le deuxième attentat le plus meurtrier contre des Américains après les attaques du 11 septembre 2001. Le régime de Muammar Gaddafi avait finalement reconnu sa responsabilité en 2003 et a payé 2,7 milliards de dollars de dédommagement aux familles des victimes. Une seule personne a été condamnée, le Libyen Abdelbasset Ali Mohamed Al-Megrahi, qui a toujours clamé son innocence. Il a été condamné à perpétuité, mais sera libéré en raison d'un cancer en phase terminale et il meurt en 2012.
La police belge a mené ce lundi une perquisition au Parlement européen à Bruxelles dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption pour influencer des décisions de cette institution de l'Union européenne, a annoncé le parquet fédéral belge. Il s'agit de la 20e perquisition en 4 jours en Belgique dans cette enquête qui implique le Qatar, selon une source judiciaire. C'est la première qui cible directement des locaux du Parlement européen. Le parquet fédéral a fait état de la saisie au total de plusieurs centaines de milliers d'euros en 3 lieux différents auprès de 3 suspects. Dans le détail, 600 000 euros au domicile de l'un des suspects, plusieurs centaines de milliers d'euros dans une valise saisie dans une chambre d'un hôtel bruxellois et 150 000 euros environ dans un appartement appartenant à un député européen. La vice-présidente grecque du Parlement, Eva Kaili, ainsi que 3 autres personnes ont été écrouées dimanche par le juge bruxellois qui pilote les investigations. Les dirigeants du G7 réunis lundi en sommet virtuel ont décidé la mise en place d'une plateforme chargée de coordonner l'aide financière à l'Ukraine, a annoncé le chancelier allemand Olaf Scholz. L'objectif est de construire rapidement cette plateforme avec la participation de l'Ukraine, des institutions financières internationales et d'autres partenaires, a expliqué lors d'une conférence de presse à Berlin le dirigeant allemand, comparant la reconstruction de l'Ukraine au plan Marshall mis en place par les États-Unis pour reconstruire l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Des membres d'une délégation américaine de haut niveau ont discuté en Chine avec leurs homologues locaux des moyens d'améliorer les relations bilatérales, ainsi que la question sensible de Taïwan, a indiqué lundi Pékin, un haut responsable américain pour sa part qualifié les discussions de franches et substantielles.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakiza de retour avec vous. Place au dossier du jour. Démocratie, droits de l'homme, sécurité, investissement, autant de sujets qui seront au menu du sommet États-Unis-Afrique qui s'ouvre demain à Washington. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains seront dans la capitale américaine et plusieurs accords d'investissement pourraient être signés durant ces trois jours. Pour une analyse sur les enjeux de ce sommet, Abdourahmane Dia a joint ici à Washington l'analyste politique Jean-Claude Nzamba.
Je pense que l'occasion est vraiment donnée dans ce monde qui est devenu très multipolaire, avec des pays comme la Turquie, comme la Chine, la Russie, l'Iran, qui s'intéressent de plus en plus donc au continent africain. Il est temps que les États-Unis mettent vraiment une politique extérieure vers l'Afrique qui non seulement a un impact au niveau économique, mais également sur tous les plans de la réduction de la pauvreté selon les objectifs des ODD.
Alors là, la nouvelle stratégie annoncée par le secrétaire d'État Anthony Blinken durant l'été insiste beaucoup sur l'investissement privé américain et également sur le partenariat économique gagnant-gagnant. Est-ce une façon de relever la différence d'approche avec des puissances comme la Chine?
Je pense que c'est un paradigme qui, pour nous, ce serait très important de voir comment cela sera mis en place. Les États-Unis ont souvent mis en œuvre des politiques où ils font un certain respect des droits de l'homme, mais également, c'était plus un travail qui était fait entre gouvernements. Mais sur le plan économique privé, nous avons des organisations comme le Millennium Challenge Goal, le Exim Bank, qui prêtent ou qui donnent des fonds à des millions de dollars, mais nous avons des entités qui n'ont pas besoin de millions de dollars, qui ont besoin de quelques centaines de mille pour pouvoir se promouvoir. Aujourd'hui, aux États-Unis, quand vous parlez du Small Business Administration, vous vous rendez compte que ce qui fait vraiment l'économie américaine, ce sont les petites entreprises. Donc pour nous, ce que nous voulons voir là, c'est comment ce que la politique des États-Unis sera par rapport aux petites et moyennes entreprises. C'est vrai que quand on regarde les grandes entreprises sur le continent, la majorité, ce sont des compagnies qui existent en Occident, qui se sont installées nécessairement dans l'extraction des matières premières. Mais on ne voit pas beaucoup au niveau de la transformation. Nous ne voyons pas aussi beaucoup au niveau des compagnies locales qui appartiennent à des Africains. Donc on aimerait voir ce que la politique du président Biden mettra en place par rapport à ce domaine-là.
Et maintenant, pour ce qui est des Africains, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour justement tirer profit de ces relations États-Unis-Afrique?
Nous avons des Africains qui sont sur place et qui ont étudié là-bas. Nous avons également des Africains de la diaspora. Nous nous rendons compte qu'aux États-Unis, nous avons à peu près 4 millions d'Africains qui sont diplômés, qui connaissent bien le système de développement ou le système de fonctionnement de l'Amérique, également des pays d'où ils viennent. Donc nous pensons que les Africains sont prêts à ce que quelque chose de concis, de concret, soit mis avec un impact dans le moyen, le court et le long terme.
C'était l'analyste politique Jean-Claude Nzamba.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Washington est le lieu de convergence des leaders politiques, économiques et de la société civile africain et américain pour passer au crible les relations entre le continent et l'Amérique. La démocratie, les droits de l'homme, la sécurité et l'investissement, autant de thèmes au menu de ce sommet est remis au goût du jour par l'administration Biden après une pause durant les années Trump. Nous ferons l'état des lieux et discuterons avec nos invités de l'avenir des relations États-Unis-Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Ce sommet qui s'ouvre demain, c'est le deuxième sommet États-Unis-Afrique. Une cinquantaine de dirigeants africains prendront part à ces assises initiées par le président Biden. Le président Félix Tshisekedi de la RDC sera présent à ce sommet. En RDC, on espère que ce sommet de Washington sera l'occasion pour les États-Unis de condamner formellement le Rwanda et son soutien aux rebelles du M23. les attentes des Congolais sur le sommet États-Unis-Afrique avec notre correspondant Alex Katikatai à Kinshasa.
Ce sommet visera à établir un nouvel engagement économique, à promouvoir la démocratie et les droits humains et à faire progresser la paix, la sécurité ainsi qu'à relever les défis tels que la sécurité alimentaire et le changement climatique. À ce sujet, le communicologue Thierry Monsenepo pense que l'Afrique devrait insister sur la pertinence des échanges d'expériences entre les industriels américains et africains afin de booster les économies du continent.
Donc ces échanges sont d'une importance capitale et nous pensons que nos chefs d'État et nos structures économiques peuvent en profiter pour d'abord insister sur le fait qu'il y ait un échange d'expériences et d'informations ce qui concerne le domaine militaire, sécuritaire, mais aussi scientifique et économique. Et aussi démontrer la possibilité pour que les hommes d'affaires aux États-Unis puissent venir investir en Afrique parce que nous ne comptons que des investissements chinois aujourd'hui qui sont en train de prendre le pas sur les investissements européens hier. Et les investissements américains sont pratiquement inexistants.
La RDC sera représentée par son président. Le pays a toujours été, malgré quelques frictions, partenaire des États-Unis. Cependant, beaucoup jugent sans impact ce partenariat privilégié entre la RDC et l'Amérique. C'est le cas de César Mpoy, juriste et analyste politique.
Les États-Unis, depuis l'avènement du président Tshisekedi au pouvoir, se sont présentés comme étant un partenaire stratégique de la RDC. Mais ce partenaire stratégique, nous ne le sentons pas encore sur des questions pertinentes, notamment sur des questions sécuritaires de la RDC. Mais toutes ces questions nous laissent perplexes, parce que nous ne voyons pas en quoi les États-Unis, qui ont un poids sur la scène internationale, aide la RDC lorsqu'elle est en difficulté. Il y a un sentiment mitigé par rapport à ce partenariat stratégique.
C'est aussi l'avis du député national élu de l'Ituri, Gracien Irachan. Il estime que ce sommet Afrique-États-Unis devrait permettre aux États-Unis de revoir leur façon de collaborer avec l'Afrique, mais surtout avec la RDC.
C'est important aujourd'hui qu'il y ait, pour moi, plus des échanges gagnant-gagnant, qui pourront faire en sorte que la RDC est renforcée en capacité, ou alors la RDC travaille au même pied d'égalité avec les États-Unis dans l'exploitation, par exemple, des ressources minières ou des matières premières. C'est ce qui pourrait nous aider à pouvoir aller de l'avant.
La RDC connaît un regain des tensions dans sa partie est avec la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda, selon l'ONU et le gouvernement congolais. Les États-Unis avaient appelé le Rwanda à cesser tout soutien au M23. L'analyste César Mpoy demande aux États-Unis d'être plus formels dans leur condamnation du Rwanda au cours de ce sommet.
Nous attendons à ce que ce sommet, qui est normalement un sommet qui traite des questions économiques, mais nous voudrions que les États-Unis condamnent aussi de manière formelle l'agression de la RDC par le Rwanda, parce que les choses sont suffisamment claires aujourd'hui et qu'il est temps que cette guerre s'arrête.
Ce sommet annoncé en juillet dernier par le président Biden démontrera l'engagement durable des États-Unis envers l'Afrique et soulignera l'importance des relations entre les États-Unis et l'Afrique. Alex Katikatai, Kinshasa, VO Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VO Afrique, 24h sur 24.
Hombourg, une station balnéaire située à environ 5 km de Dakar. Un homme de nationalité guinéenne a ouvert le feu, tuant 2 personnes et blessant grièvement 3 autres suite à un braquage raté dans une boutique de change. Un drame qui vient s'ajouter aux nombreuses attaques à main armée notées dernièrement. Des faits qui inquiètent fortement la population sénégalaise. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Démarrer tardivement et fermer la boutique un peu plus tôt, quitte à perdre de l'argent, voilà la résolution de Serigne Cheikh Diané. L'insécurité qui se propage dans le pays cause énormément de préjudice à ce jeune gérant de multiservice.
Sincèrement, j'ai eu peur pour moi quand j'ai entendu la nouvelle. Il est vrai que c'est pas une première, mais cela fait toujours le même effet. En plus, cette insécurité a un impact sur nos affaires, car quand tu travailles dans certains secteurs et que tu n'es pas installé dans les marchés, tu dois travailler la nuit pour faire des bénéfices. Mais avec ces cambriolages, je suis obligé de fermer boutique un peu plus. Les autorités doivent vraiment nous aider.
Une insécurité qui ébranle la quiétude d'Eliman Diop. Pour cet agent immobilier, ces meurtres ne rassurent pas.
Moi, je suis carrément sous le choc, surtout quand je vois la recrudescence des meurtres. Hier, c'est 3 morts, avant-hier, 2. Demain, ce sera combien? À la longue, c'est comme si les meurtres sont normalisés. Et en tant que citoyen, cela fait peur, car, comme le dit l'adage, rien ne vaut la paix.
Les causes sont multiples, mais Jean-Marie, commercial pour une agence de téléphonie, pointe du doigt, lui, la porosité des frontières.
Il faut être beaucoup plus vigilant par rapport à ce qui entre dans le pays, car c'est trop facile d'entrer dans le territoire sénégalais. Des fois, tu vois quelqu'un et tu te demandes comment il a fait pour entrer au Sénégal.
Mustapha Diakhaté indexe les textes de loi qui régissent le pays. Pour ce marchand ambulant, il faut être plus strict dans les peines.
Perso, moi je suis pour le durcissement des peines. Les textes qu'on a sont là depuis longtemps et n'ont pas l'effet escompté, donc il faut changer.
La question de la circulation et de la facilité d'acquisition des armes à feu est aussi pointée du doigt par nos interlocuteurs qui réclament une réglementation beaucoup plus rigoureuse par rapport à ces armes pour éviter que pareil drame ne se produise à l'avenir. C'est Serina Bagay pour VOA Afrique, Dakar.
En Côte d'Ivoire, à l'approche des fêtes de fin d'année, le gouvernement opte pour la sécurisation. La 8e édition de l'opération Épervier a pour but de garantir la quiétude des populations et sécuriser l'ensemble du territoire. Les détails dans ce reportage de Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
Fourgons blindés, véhicules de patrouille, armes à feu, motos, gaz lacrymogène et bien d'autres sont le matériel conventionnel utilisé par les forces de sécurité pour l'opération Épervier 8. Le général Youssouf Kouyaté est le directeur général de la police nationale.
L'opération Épervier est une occasion pour les forces de défense et de sécurité de planifier, de coordonner et de conduire en parfaite synergie des stratégies de prévention et de répression de la grande criminalité.
Occasion pour le ministre de l'Intérieur de féliciter ses troupes et appeler les populations à coopérer avec les forces de l'ordre. Le général Vagondo Diomandé.
Je voudrais inviter la population à accompagner résolument nos forces de défense et de sécurité par leur engagement personnel. Vous avez compris que sans la population, les forces de sécurité, j'ai envie de dire, ne sont rien. Nous sommes là pour vous, chère population. Mais aussi, nous veillons sur votre sécurité.
Et les populations apprécient.
Nous tous, on constate que pendant les fêtes de fin d'année, il y a trop d'accidents, il y a trop d'embrouilles dans les rues, il y a trop de palabres, trop de vols. Donc si l'État pensait à ça, c'est que c'est pour éviter beaucoup de dégâts en cette fin d'année 2022.
Pendant les fêtes de fin d'année, il y a certaines personnes de mauvaise foi qui utilisent des armes blanches et agresser autrui pour les arracher le bien. Donc c'est normal que l'État protège la population.
Pendant cette période, il y a de nombreux déplacements, des voyages pour la plupart à bord des véhicules de transport en commun pour aller passer les fêtes en famille. Afin d'éviter les accidents sur les routes, le président de la Coordination nationale des gares routières du Côte d'Ivoire, Touré Adama, appelle les conducteurs à la prudence.
Nous prions tous nos conducteurs, ne faites pas d'abus. Quand vous êtes fatigué, donnez la chance à un de vos collègues de conduire, reposez-vous pour ne pas faire des accidents inexplicables. Nous demandons à nos frères conducteurs de faire l'effort de ne pas faire d'excès de vitesse et d'exiger à nous les propriétaires des véhicules de mettre les véhicules en état et de faire les visites techniques en mettant toutes les pièces d'assurance et tout ce qu'il faut.
L'opération Épervier 8 sera menée jusqu'au soir des fêtes de fin d'année pour sécuriser les biens et les personnes et lutter contre la grande criminalité. Delphine Boise, Abidjan, VOA, Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Joselle Morissin, Lionel Lunanila Gahima et Michel Joseph pour la réalisation de cette édition et la mise en onde. Merci également à toute l'équipe de rédaction. Au micro, Eric Manilakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier vos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. et à la prochaine.